Je vous propose d'ouvrir la Bible pour y lire un passage d'un livre souvent méconnu, parfois méprisé, Qohélète. Qohélète qui signifie en hébreu celui qui rassemble. Kahal, c'est l'assemblée. Qohélète, c'est celui qui suscite l'assemblée. Et rien de tel qu'un texte de l'Ecclésiaste, de Qohélète, en ce jour qui célèbre la fête de la Confédération, ce peuple rassemblé. Et c'est au chapitre 2, les versets 20 à 26, que je vous propose des mots pour nourrir notre méditation ce matin. Voici ce que dit Qohélète. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi, dit l'Éternel ? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Seigneur, ta parole est vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le cantique 250, frères et sœurs, sera l'occasion pour nous de tendre notre âme vers Dieu et d'y implorer quelques bénéfices, cantique 252, les strophes 1, 2 et 3. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi. Nous savons quel est le prix que nous avons à tes yeux. Alors nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi. Tu nous le fais découvrir dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, vous aurez peut-être fait le même constat que moi. Ce mois de juillet est l'occasion d'un regain d'enthousiasme. Je constate que de nombreuses personnes apprécient le mois de juillet, non pas simplement parce que le soleil semble être présent de façon durable, mais parce que les personnes qui continuent à travailler, celles qui ne sont pas encore en congé, retrouvent une sorte de plaisir dans leur travail. Moins de pression, semble-t-il, du moins pour certains. Moins de sollicitations diverses et variées qui ont tendance à nous détourner de notre cœur de métier. Le mois de juillet réconcilie beaucoup de travailleurs avec le travail et même, parfois, avec la vie. Je constate en tout cas qu'il y a moins de personnes qui livrent leur cœur au désespoir à cause de tout le travail qu'elles font sous le soleil. Alors que le soleil, justement, n'est pas ce qui manque ces temps-ci. Eh bien, j'explique cela par le fait que le mois de juillet est propice à vivre le programme que développe le livre biblique Qohélète. Un livre qui ne cherche pas du tout à nous expliquer que tout ce que nous faisons ne sert à rien, que la vie ce n'est que du vent, de la buée qui s'évapore dès le moindre rayon de soleil. Qohélète n'a rien d'un cynique, d'un pessimiste. Il développe une éthique sérieuse, rigoureuse, certes, mais une éthique qui confine à la joie de vivre. Alors évidemment, cela ne semble pas très évident lorsqu'on pioche dans quelques passages choisis à dessein pour montrer que tout est sombre et tout est triste chez Qohélète. Mais vous l'avez entendu. Il n'y a pas que des noirs nuages dans le livre de Qohélète. Qohélète me semble développer une éthique tout à fait intéressante pour notre époque, à vrai dire pour toutes les époques. Une éthique qui nous permet de quitter les habits de tristesse ou de désespoir pour revêtir des habits de fête dignes d'un 14 juillet. Cette éthique est une éthique que je qualifierais d'éthique de la simplicité. Et il me semble qu'avant liberté, égalité et fraternité, ce qu'il nous faut, c'est de la simplicité en toutes choses. Et c'est donc de la simplicité que j'aimerais me faire le chantre ce matin. Le pasteur Charles Wagner l'écrivait déjà il y a un siècle dans cet ouvrage qui a fait le tour du monde et qui l'a même conduit à être invité par le président des États-Unis d'Amérique. Cet ouvrage que je vous recommande, La vie simple. Plus rien n'est simple, écrivait-il, il y a un siècle. Ni penser, ni agir, ni s'amuser, ni même mourir. Tout cela était déjà vrai du temps de Coëlette, à vrai dire, 3 siècles avant notre ère. Et cela est encore vrai de nos jours. Même mourir, en effet, est assez compliqué. Et il suffira pour s'en convaincre de s'intéresser de près à tous les débats qui sont en cours sur la question de la fin de vie. Même la mort ne va pas de soi. Alors, si le mois de juillet offre quelques satisfactions à bien des personnes, je ne voudrais pas généraliser, je ne doute pas qu'il y a parmi vous certains qui ont horreur de ce juillet-là, c'est parce que la vie se simplifie à ce moment-là. Certaines familles n'ont plus d'enfants à charge, soit parce que les grands-parents en bénéficient, soit parce que certains ont rejoint leur camp scout. Il y a plus de temps pour rencontrer les amis, pour se retrouver autour d'un verre, autour d'un repas, manger et boire, et ce faisant, jouir du bien-être au milieu de son travail. Combien de fois oublie-t-on, durant l'année, que le bonheur est aussi simple qu'un bout de pain partagé entre amis ? Combien de fois avons-nous l'intuition, pendant l'année, que c'est la complexité du monde, de la vie, de notre travail qui nous empêche d'être véritablement heureux ? Lorsque nous ramenons nos soucis à la maison, lorsque nous n'arrivons pas à nous débarrasser des problèmes d'organisation, de planning, de conflits, de problèmes techniques à résoudre, de mise à jour de logiciels, de connexions Internet qui ne fonctionnent pas, tous ces soucis qui viennent jusque dans nos draps et gorger nos nuits et nos compagnes. Eh bien, que faire contre cela ? Nous avons une aide à notre disposition, Coëlette. Coëlette qui développe une éthique de la simplicité. Pour le dire en un slogan, en une formule, simplifier la vie, c'est mieux vivre. Et oui, notre vie peut être simplifiée. Ce n'est pas qu'une chimère de prédicateur, une sorte de bon mot d'évangile pour passer une sorte de baume et panser les blessures. Notre vie peut être véritablement simplifiée, c'est une conviction forte de la foi chrétienne. Simplifiée dans le sens d'un recentrement sur l'essentiel. Par exemple, en consacrant moins de temps à ce qui n'est qu'accessoire, ce qui est annexe. Lorsque Coëlette parle du bien-être, il dit qu'il est possible de faire jouir notre âme du bien-être. C'est notre âme qui est en jeu, et pas nos sens. C'est une manière de dire que notre bien-être s'éprouve lorsque notre vie est mise en tension avec l'absolu. Se concentrer sur l'essentiel, c'est cela. C'est placer notre vie devant l'Éternel pour voir ce qui tient bon devant l'Éternel et du coup ce qui mérite d'être vraiment vécu. C'est repérer ce qui compte vraiment et y donner le plus clair de son temps. Je pense que ce doit être là le béaba du management, ne pas se tromper dans ses priorités. Encore faut-il dégager cet essentiel de la masse des petites choses qui nous collent à la peau et qui nous étouffent peu à peu. C'est là que les textes bibliques sont utiles pour nous, une véritable hygiène spirituelle, pouvoir penser l'ensemble de notre vie. Et la prière est là pour cela, pour donner du poids à ce qui doit avoir une vraie gravité dans notre vie. Martin Luther avait ce conseil qui est en soi là aussi un conseil de management, mais qui est un conseil extrêmement précieux. Il disait: quand le matin tu te rends compte que ta journée est débordée, que ton agenda est saturé et que tu n'auras certainement pas le temps de faire tout ce que tu as à faire, commence par prendre une heure pour prier. Oui, quand nous n'avons pas assez de temps devant nous, commençons par prendre du temps pour faire le tri, pour voir ensuite sur quoi il s'agit vraiment de se concentrer, sur ce qui le mérite. Alors, vous me direz, vaste utopie, comme s'il était possible, dans le tourbillon de notre vie quotidienne, de s'arrêter à un moment donné, de ne plus répondre à toutes les sollicitations, notamment de notre hiérarchie, et de pouvoir dire « je révise les priorités et je me concentrerai sur ce qui me semble vraiment essentiel ». Vaste utopie ? C'est pourtant ce que font tous ceux qui réussissent dans leur vie professionnelle. Sans sacrifier à leur vie familiale d'ailleurs, sans sacrifier à leur bien-être. Car souvent, nous avons des personnes qui manifestement réussissent dans leur vie professionnelle, mais qui, dans le secret de leur cœur, car il ne faudrait pas perdre la face devant les collaborateurs, confient leur cœur au désespoir et subissent tout au long de la nuit les assauts de l'inquiétude. Repérer quels sont les vrais sujets et s'y consacrer vraiment. Faire ce qui nous appartient et simplement cela, sans se préoccuper de ce qui n'est qu'annexe ou de ce qui appartient à l'autre. D'ailleurs, il se pourrait que nous découvrions que les vrais sujets ne tiennent pas nécessairement au monde du travail. Il se pourrait que notre prière nous révèle que nous avons négligé la famille, certes, mais peut-être aussi un talent, une vocation, nous-mêmes. Peut-être nous sommes-nous sacrifiés sur un autel qui n'a rien de très glorieux. Eh bien, l'éthique de la simplicité nous propose de ne pas attendre que cela aille vraiment mal pour se demander: que revient-il à l'homme de tout son travail ? Inutile d'attendre que notre fatigue, notre douleur, notre chagrin soient à la hauteur du Mont Ventoux pour s'interroger sur ce que nous pourrions faire pour retrouver un peu de ce bonheur dont Colette dit qu'il est un don de Dieu. Un don de Dieu parce que le bonheur véritable, le bonheur qui dure, le bonheur qui n'est pas que chimère, vanité, buée, est celui qui s'inscrit dans l'éternité, celui qui s'inscrit dans l'éternel. Et je répète que l'éternel, ce n'est pas d'abord une question de temporalité, mais une question de qualité d'existence. Ce dont il est question ici, c'est de dégager notre vie de ce qui l'encombre. C'est la libérer de ce qui l'entrave. Je ne dis pas que ce soit chose facile. Je n'ai pas plus d'illusions que vous à ce sujet. Je ne suis pas un être plus naïf que vous. Mais c'est par ce dépouillement que nous pouvons être vraiment un peu plus nous-mêmes. Je parlais des camps scouts. N'est-ce pas dans les camps scouts, justement, que nos enfants ont l'impression de se révéler véritablement, le sentiment d'être vraiment eux-mêmes, lorsqu'il n'y a plus que l'essentiel au cœur de chacun? Manger, boire, dormir un peu, pas trop, jouir beaucoup de la nature, des frères scouts, des aventures préparées par les chefs, faire preuve d'imagination, faire confiance, espérer, communier. Oui, s'engager de tout son être dans cette communion humaine qui nous transporte vers cette terre promise où nous célébrons vraiment la vie. La vie telle que nous en parle l'Évangile. C'est l'expérience que font chaque année les louveteaux, les éclaireuses, les éclaireurs en camp scout. Pourquoi cela leur serait-il réservé ? Ce qui est bon pour les enfants est aussi bon pour les parents. Eh bien, il me semble que cette simplicité rejoint ce fameux dicton « simple comme l'Évangile ». Alors parfois, c'est vrai, en vous écoutant, j'ai l'impression inverse, que l'Évangile, c'est tout sauf simple. Que l'Évangile est tellement compliqué selon vous que seuls les pasteurs peuvent vraiment y avoir accès. Qu'il n'y a que pour y comprendre quelque chose. En fait, si parfois l'Évangile nous semble compliqué, c'est parce que nous sommes compliqués. Et que la simplicité de l'Évangile nous semble assez inaccessible. Ou alors nous ne voulons pas y croire tellement c'est simple. Nous sommes tellement compliqués que nous en avons du mal à comprendre cet Évangile qui nous appelle à vivre quelque chose tellement éloigné de notre manière de vivre et de notre manière d'être surtout. Je reviens sur la question du langage. Cette question du langage que j'avais abordée lors de la prédication sur le livre d'Esther. Le langage de la Bible est un langage ordinaire. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous n'y trouverez pas de mots religieux dans la Bible. C'est nous qui avons transformé le langage de la Bible en un langage religieux. C'est nous qui l'avons sacralisé. C'est nous qui l'avons sédimenté sous le vernis de la religion. J'avais pris comme exemple le terme « ressuscité ». Il n'y a pas d'exemple plus criant qui soit que ce mot « ressuscité » qui en fait veut dire « se relever » ou « se réveiller ». Eh bien, j'ajoute que les textes bibliques ne théorisent pas, à part peut-être certains passages de l'apôtre Paul dont je vous accorde qu'ils ne sont pas tout à fait simples comme le bon évangile. Et pour le reste, dans les textes bibliques, il n'y a pas cette inflation de concepts qui inonde tant de discours abscons. En disant cela, je l'applique à nous-mêmes, les prédicateurs de l'oratoire. Et pourtant, il faut que je partage un secret. Il y a un conseil qui est donné de pasteur de l'oratoire à pasteur de l'oratoire. Et en vertu du sacerdoce universel, vous pouvez aussi en profiter. Tout cela remonte au temps du pasteur Vidal, au temps cafeté jusqu'au bout. Le pasteur Vidal était donc l'un de nos prédécesseurs et le pasteur Ducrot, qui était dans les Charentes, postule à l'oratoire. Un peu inquiet, pensez, prestige de l'oratoire. Que faire pour bien faire dans la chaire de l'oratoire ? Alors il s'en ouvre au pasteur Vidal, lui demande quelques conseils. Pauvre pasteur de la Charente. Et le pasteur Vidal lui dit, « Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Vous prêchez comme vous le faites en Charente, mais en plus simple. » Les textes bibliques sont simples. Et cela ne veut pas dire simpliste. Car la simplicité, ce n'est ni la misère, ni la médiocrité, ni la vétusté, ni même la modestie. La sagesse biblique est simple parce que l'Évangile est d'abord composé d'une langue simple qui aborde avec simplicité la complexité de la vie pour la rendre moins confuse, moins tortueuse, plus compréhensible et donc plus praticable. Il ne vous aura pas échappé que la sagesse de Coëlette n'a rien de commun avec la rhétorique d'Emmanuel Kant. Mais elle n'en atteint pas moins la profondeur de l'être. La simplicité de notre langue devrait être à l'image de cette simplification du culte chrétien qui a été opérée au temps de la Réforme, aussi bien pour ce qui est de la liturgie que ce qui est des lieux de culte. Il y a une épure que nous revendiquons dans notre culte, dans notre lieu de culte. Eh bien, cette épure, il faudrait que nous la revendiquions aussi pour notre vie spirituelle. Une vie spirituelle qui n'est pas confinée au dimanche matin, qui n'est pas confinée à quelques moments pour lesquels nous disons qu'il y a là un temps de religion. La vie spirituelle, c'est ce qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes à chaque instant de notre vie. Il y a dans notre façon de présenter le protestantisme un contraste avec parfois cette inflation de concepts, d'ornements, de fioritures qui en viennent à cacher l'essentiel. Le pasteur Charles Wagner prenait l'exemple d'une lampe. Qu'est-ce qu'une bonne lampe ? Ce n'est pas la plus ornée, la mieux ciselée, disait-il, celle qui est faite du métal le plus précieux. Une bonne lampe, c'est une lampe qui éclaire bien. C'est simple. L'éthique de la simplicité nous aide à dégager l'homme de tout ce qui l'encombre au point d'en faire un bon homme. Et un bon homme, c'est un homme qui aime bien. Qu'est-ce qu'une bonne religion ? Eh bien, c'est une religion qui nous permet une vie bonne, une vie véritable. Une bonne religion, c'est ce qui nous permet de faire jouir notre âme. Une bonne religion, c'est ce qui nous permet de découvrir le don de Dieu qui consiste à éveiller en nous le sentiment infini de la valeur de la vie. C'est simple. Et je crois que c'est efficace. Parce que la simplicité de la langue, cette simplicité qui met en évidence que ce que nous le concevons clairement, eh bien la simplicité de la langue est un grand bénéfice pour nous tous. Car avec une langue simple, nous ne pouvons pas nous cacher derrière des concepts qui ne sont pas les nôtres et qui parfois nous empêchent de développer notre propre pensée, nos propres convictions, notre propre éthique. Et de ce point de vue, les enfants sont les meilleurs pédagogues qui soient. On ne peut pas tricher avec les enfants. On ne peut pas se cacher derrière les gros mots de la foi, parce qu'un enfant n'y comprend rien sinon. Et nous ne voulons pas assécher le cœur de nos enfants. Alors dans ce cas, nous sommes obligés de faire un effort de simplification. Non pas leur raconter des histoires abracadabrantesques. Non, leur dire les choses simplement, de façon accessible. Ce qui suppose au préalable un énorme travail d'interprétation de notre part, et donc un énorme travail de clarification. La simplicité n'a rien de simpliste. La simplicité de la langue est ce qui nous permet de nous engager de tout notre être, de nous engager à fond dans une discussion, sans tenir un rôle de composition, sans faire parler quelqu'un d'autre à notre place, sans recueillir et amasser ce qui n'est pas à nous et qui, du coup, finira dans les bras d'un autre, de quelqu'un qui est vraiment sage, pour reprendre les mots de Coëlette, celui qui ne vit pas par procuration. Cette simplicité, c'est en quelque sorte la simplicité qui conduit à la joie, celle de la fraternité des veilleurs, les veilleurs façon Wilfred et Théodore Monod. La simplicité, c'est ce qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. La simplicité, c'est ce qui dégage notre être véritable, notre être profond, celui-là même dont il est question dans tous les livres bibliques, celui-là même que l'Éternel espère voir émerger. L'éthique de la simplicité, c'est ce que nous avons de mieux à notre disposition pour que chaque mois de notre année soit un mois de juillet. Et pourquoi pas ? Pour que chaque jour soit un véritable 14 juillet qui permet la joie authentique. Amen.